Je me rappelle, donc j'ai 30 ans, on est dimanche soir, et je décide d'aller sur une péniche, avec mon grand frère, avec des copains, on va boire des pintes, on fait la fête, ouais, parce que le week-end il est bientôt fini, donc... Et ce soir-là, j'ai la tête qui tourne toute la soirée, dans la péniche. Et je me dis, ouf, mais la scène, qu'est-ce qu'elle a, la scène, là, elle est... qu'est-ce qui se passe? Je regarde les bateaux, mais non, en fait, on est bien amarrés. La péniche, elle bouge pas tant que ça, mais moi, par contre, ça commence à tanguer. Plus que d'habitude et plus longtemps.
Quand dans sa vie, on a connu une déflagration, on sait qu'on va être confronté à un choix. Continuer à vivre ou pas. Et puis une fois ce plouf-plouf morbide tranché, continuer à vivre, d'accord. Mais comment? Mes invités ont vu leur vie sauter en l'air. Et on va s'intéresser aux stratégies de ces survivants de leur vie d'avant. Ils regardent dans le rétro et parlent sans tabou des histoires dingues qui ont fait briller leur vie. Qu'ils soient puissants, drôles, touchants, agaçants, secrets ou impudiques, ils ont tous en commun un truc dans le regard qui va s'entendre dans leur voix. N'attendez pas que la vie vous fasse une blague pour la dévorer. Venez, écoutez leurs histoires, pleurez, rire. Installez-vous confortablement. Et ça va bien se passer. Bonjour Julia.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter très rapidement?
Oui, je m'appelle Julia, j'ai 39 ans et j'ai grandi et je vis en région parisienne.
Bon, super. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle était ta vie après tes études, le début de ta vie pro par exemple?
Ouais, donc je commence ma vie professionnelle, je rentre dans une grande boîte multinationale, ouais. À un poste de responsable ressources humaines. Ouais. Je suis diplômée d'une école de commerce qui s'appelle Reims Management School à l'époque, mais maintenant qui s'appelle Neoma. Et donc je décroche mon premier job un peu de mes rêves, je suis hyper contente parce que je suis dans une structure où je vais pouvoir accompagner les salariés et donc hyper contente.
Qu'est-ce qui te plaît dans les RH?
J'aime travailler sur l'humain, j'aime les relations avec les gens, j'aime connaître leur parcours, d'où ils viennent, et j'aime le contact humain, et donc ça me plaît énormément de rentrer dans cette boîte où il y a tout à construire, et on est une vingtaine de personnes, on s'entend hyper bien, moyenne d'âge, 25-30 ans, moi j'ai 25 ans, je rentre dans cette boîte, je suis trop contente.
C'est vraiment une très grosse boîte si vous êtes 20 dans un service de RH?
Alors, non pardon, je me suis mal exprimée, c'est une très grosse boîte au niveau monde, on est environ 30 000 salariés.
Ok.
En France, c'est une toute petite filiale, on est 20 en tout.
D'accord.
Et moi, je suis la seule RH. C'est une création de poste.
D'accord.
C'est un lancement d'activité. Donc, c'est un gros, gros groupe au niveau international. La maison mère, elle est en Europe. Et en France, c'est une petite filiale qui lance les activités pour concurrencer la boîte qui a le monopole en France.
D'accord. Et du coup, bah oui, effectivement, je comprends maintenant quand tu dis qu'il y a tout à construire. C'est une énorme responsabilité pour une jeune femme de 25 ans.
Ouais. Donc moi, je leur ai dit dans les entretiens, je suis jeune diplômée, je peux tout apprendre, mais je sais pas faire grand-chose, en vrai.
J'ai envie, mais
j'ai fait des stages, mais bon, j'ai fait une école de commerce. Les grandes écoles de commerce comme Neoma, à mon sens, c'est des écoles qui t'apprennent à travailler avec des gens avec qui t'as pas l'habitude de travailler, à faire des projets. Je suis partie à l'international, je suis allée faire un an au Mexique, etc. Mais je ne sais pas déclarer un arrêt de travail sur le portail quand il y a un salarié qui vient. Mais par contre, je suis hyper motivée, je suis hyper curieuse et voilà, j'ai certaines aptitudes. Et je suis étonnée de décrocher le poste, honnêtement, parce que j'ai pas toutes les compétences à ce moment-là. Hein.
Ouais.
Par exemple, je sais pas faire la paye et pourtant, faut la faire.
Par exemple, alors là, c'est un peu en marge, mais comment tu fais alors dans ces cas-là?
Alors, c'est le DAF qui faisait la paye et qui m'a tout appris.
D'accord.
Mais
alors, on peut dire ce que c'est un DAF?
Ouais, le DAF, c'est le directeur administratif et financier. Voilà. Donc, c'est la personne qui s'occupe de la finance. Donc, moi, j'apprends tout sur le tas quand j'arrive dans cette société, en gros. Hein.
Ouais. Et donc, ton chef, il est au siège de l'entreprise?
Ouais, alors j'ai deux responsables quand j'arrive. J'ai donc le directeur financier et j'ai aussi une directrice RH dans la maison mère.
D'accord.
Qui est basée en Espagne. Et donc j'ai deux reports.
D'accord.
Un direct sur place en France, le directeur financier, et un qu'on appelle fonctionnel.
Ouais.
C'est un report, on va dire, plus secondaire, mais quand même, pour vérifier un peu ce qu'on fait au niveau RH.
Donc tu communiques avec elle en espagnol?
Ouais.
Pardon, j'ai failli. Je suis encore enrhumé pour ceux qui pensent que j'ai une voix de canard, encore plus canard que d'habitude. Donc, La vie est belle.
La vie est belle. J'habite... Alors, au bout de 2 ans, j'ai une promotion. Ouais. Je deviens responsable RH avec, on va dire, une personne à manager dans mon équipe.
Ouais.
La boîte grandit, on recrute de plus en plus, on s'agrandit. Il y a d'autres pays qui rentrent dans mon périmètre. Belgique, Pays-Bas, Allemagne.
Et ça, c'était le deal de départ ou c'est ta promotion?
Pas du tout. C'est le fait que la boîte grandit.
Ouais.
Et décide de se construire, de s'agrandir et de construire des petites filiales qui vont être rattachées à la France. Et donc, moi, je vais devenir, parce que la boîte grandit et que je suis là en place, je vais devenir un peu la responsable RH Europe au bout de 2 ans. Donc, j'ai 27 ans et avec une personne à manager. Je déménage, j'habite à Paris à ce moment-là, dans un petit appart, je sors beaucoup. Ouais, j'ai 27 ans, j'ai un salaire, j'ai un poste que j'aime et je m'éclate. J'ai des copains, vie sociale hyper épanouie.
Tout est possible, quoi.
Ouais, voilà. Je parle espagnol, j'adore ça au boulot. Bonne ambiance. On est proche avec les collègues, tellement proche qu'on part même en week-end ensemble.
Ah ouais.
Voilà, il y a des Espagnols dans le groupe. Ah, venez, on va aux Asturies, on va à Barcelone et on fait des week-ends. Donc, ouais, c'est une émulation sympa.
Ouais.
Pour mon âge, en tout cas, moi, ça me convient.
Et la personne que t'as managé, tu t'as déjà managé, tu sais le faire, comment tu appréhendes ça?
Non, j'ai jamais managé, je sais pas faire.
Ok.
Donc, quand on me dit ça, moi, j'appréhende, je me dis, je vais jamais être à la hauteur. Déjà, je suis contente d'avoir ce genre de poste, mais est-ce que je vais y arriver? Des collègues me disent, écoute, Julia, c'est du bon sens, tu vas y arriver. Et voilà, ça se passe un peu comme ça. Bon, ma collaboratrice est hyper sympa, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément l'expérience et à ce moment-là, on me forme pas spécialement non plus.
D'accord. Et tu bosses beaucoup déjà pour apprendre à... Enfin, j'en sais rien, mais moi, spontanément, j'aurais lu des trucs sur le management. Enfin, comment tu appréhendes ce poste qui grandit d'un coup, quoi?
Oui, effectivement, je me mets à beaucoup travailler parce que j'adore ce que je fais, que je me sens redevable de la promotion que j'ai eue. Et du coup, tout ce qui m'arrive en si peu de temps nécessite beaucoup d'efforts de ma part pour tenir la barre et arriver à tout faire. Donc oui, je me mets à travailler beaucoup du matin au soir, ça déborde le soir. Je me déplace aussi beaucoup parce que cette société me demande d'aller à la rencontre des salariés en Europe, ce qui est tout à fait normal. Et je me déplace, je commence à avoir la carte Thalys, voilà, pour aller à Bruxelles, je deviens une habituée des avions, je vais beaucoup donc à Bruxelles, à Amsterdam, à Cologne, en Allemagne, et je reporte aussi donc à la maison mère, qui a 2 sièges sociaux, un à Madrid, un à Barcelone, et je suis beaucoup convoquée là-bas. Donc je me retrouve, franchement, avec une vie beaucoup dans les avions et dans les trains, et je me dis même à un moment, franchement, je deviens gold avec Air France. Enfin voilà, ma mère est hôtesse de l'air et je me dis, mais je crois que je voyage plus qu'elle en ce moment, quoi.
C'est dingue.
Ça devient un peu la folie. Et du coup, comme en France, on est quand même 2 au niveau RH, mais il y a toujours la paye à faire. Et il y a des fois, j'ai voyagé la semaine et c'est la fin du mois. Alors je viens le week-end et je commence à faire la paye le week-end dans les bureaux en France parce que la paye, elle a pas été faite. Donc je commence à travailler beaucoup, mais aussi le week-end.
Est-ce que tu te dis je suis mal organisée ou est-ce que tu commences à dire les mecs il faudrait me donner un autre adjoint là c'est quoi ton état d'esprit à cette époque?
À cette époque je me dis je pense qu'on n'est pas assez nombreux dans mon service et qu'il faudrait qu'on structure les choses différemment, donc j'en fais part à ma hiérarchie, que ce soit en France ou en Espagne, mais je n'ai pas forcément de retour positif ou d'accompagnement à ce niveau-là. On ne me donne pas de nouvelles recrues ou on ne me débloque pas de recrutement. Donc je continue à tenir le rythme et à faire ce qu'il faut pour que ce soit fait. Je me pose pas trop de questions non plus parce que j'adore mes collègues, j'adore l'ambiance de la boîte. C'est mon premier boulot, donc j'y vais à fond et je continue. Je continue comme ça, ouais.
Peut-être aussi qu'ils te donnent pas les moyens parce que au-delà du fait de pas être attentif à ce que tu dis, ça roule bien, quoi. Donc ils se disent pourquoi on changerait.
Oui, je pense qu'ils trouvent que ça se passe bien. Ouais, ils doivent être contents de ce que je fournis comme travail parce que j'ai pas forcément de retour négatif, au contraire. Donc je pense que ça leur convient bien comme ça, ouais.
Et ta famille remarque que tu bosses plus que d'habitude ou pas?
Oui, ma famille le remarque. Ça m'arrive de passer un dimanche chez mes parents en région parisienne. Normalement, c'est prévu pour déjeuner. Et en fait, on déjeune et juste après, j'ouvre mon ordi et je vais bosser sur le canapé. Et mon père, à ce moment-là, me dit, Julia, faudrait que tu arrêtes de travailler. On est dimanche quand même. Tu vas pas travailler maintenant. Et je lui réponds, mais papa, tu comprends pas. Il faut faire les effectifs là. Donc, je fais mon petit fichier Excel et juste après, c'est fini. Mais je le fais quand même.
Ouais. Et ta vie perso, c'est quoi? Est-ce que tu arrives à faire autant la fête? Est-ce que tu arrives à maintenir cet équilibre de vie festive? Est-ce que tu as un amoureux? C'est quoi la photo de ta vie à ce moment-là?
À ce moment-là, je fais beaucoup la fête. J'adore sortir avec mes amis, avec mon grand frère aussi. Je profite de la vie parisienne, du musée, de toute la culture que peut offrir cette ville. Je m'éclate. Au niveau amoureux, j'ai rien qui est stable. J'ai aucune relation qui m'apporte quelque chose de stable à la maison. Non.
Donc personne t'empêche d'ouvrir l'ordi le soir, quoi.
Non, clairement, personne ne m'en empêche.
Donc tu l'ouvres.
Oui. En fait, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de télétravail non plus. Donc, je fais beaucoup d'heures présentielles au siège. Je suis pas forcément beaucoup avec l'ordinateur à la maison,
Ok.
sauf le week-end parce que je m'organise forcément pour pouvoir travailler le week-end. Mais sinon, le soir en semaine, je vais rester beaucoup sur place. Et après, je rentre tard chez moi, ou alors je fais un petit détour par un resto, un petit bar, et après, je rentre. Mais voilà un petit peu ma vie du moment, quoi.
Et t'es heureuse à ce moment-là?
Je me sens heureuse, oui. Je me sens bien. Je me sens bien. Mais de temps en temps, je crois que je me sens un petit peu fatiguée quand même, de temps en temps. J'ai un peu, au bout d'un moment, ouais. Là, on parle de, j'ai 27 ans, 28 ans, 29 ans, puis là, à ce moment-là, oui, j'ai 30 ans, j'arrive à mes 30 ans, je fête mes 30 ans, super. Ça fait 5 ans que je suis dans la société. Et puis, ça fait donc 3 ans que je suis responsable RH avec un périmètre européen. Et là, de temps en temps, je commence à avoir un peu la tête qui tourne de temps en temps. Je me sens un peu fatiguée. Mais je suis heureuse.
T'as déjà eu ça avant?
Non, jamais.
Et alors, tu vas voir un médecin, tu fais quelque chose ou tu vis avec?
Je ne vais pas voir de médecin. Je me dis, oh, je suis un peu fatiguée, ça doit être de la baisse de tension, donc bon, je me repose un peu ce soir et demain ça ira mieux. Et effectivement, ça passe au bout d'une heure ou deux. C'est très éphémère. J'ai un peu la tête qui tourne et puis ça passe. Donc je reprends mon rythme dès que c'est fini. Et puis c'est une fois toutes les 2 semaines. C'est vraiment pas très récurrent. Mais il y a ça qui m'arrive et puis je fais pas du tout attention. C'est oh, pff, oh, encore cette baisse de tension. Bon, pff, allez. Ça va aller.
Et il y a d'autres choses pas banales qui t'arrivent dans ton quotidien comme ça?
Il y a quelques fois où, pour aller au travail le matin, j'ai quelques montées de larmes inexplicables, selon moi. À ce moment-là, je me dis, tiens, ouf, il y a des larmes qui montent. Ça m'arrive même que je me mette à pleurer comme ça un petit peu le matin en allant au travail ou le soir. Jamais sur mon lieu de travail, jamais dans l'action, mais plutôt sur les trajets ou quand je suis toute seule chez moi. Ça m'arrive aussi un petit peu d'avoir des larmes qui montent. À la base, je suis quelqu'un de sensible, je peux pleurer facilement devant un film, mais là, pour moi, ça sort de nulle part. C'est oula, ouf, ça monte et puis ça part, comme la tête qui tourne.
Et tu le raccroches à rien,
Non, je le raccroche à rien du tout. Je me dis juste que je suis un peu fatiguée, que j'en fais beaucoup, mais que ça va aller, quoi.
Et est-ce que ça va aller alors finalement?
Alors, je me rappelle, donc j'ai 30 ans, on est dimanche soir, et je décide d'aller sur une péniche avec mon grand frère, avec des copains, on va boire des pintes, on fait la fête. Ouais, parce que le week-end, il est bientôt fini, donc. Et ce soir-là, j'ai la tête qui tourne toute la soirée dans la péniche. Et je me dis, ouf, mais la scène, qu'est-ce qu'elle a, la scène, là? Elle est, qu'est-ce qui se passe? Je regarde les bateaux, mais non, en fait, on est bien amarrés. La péniche, elle bouge pas tant que ça, mais moi, par contre, ça commence à tanguer. Plus que d'habitude et plus longtemps. Le lendemain matin, je vais au travail. Je me réunis avec ce qu'on appelle un comité de direction, donc les directeurs de la petite société dans laquelle je travaille. Et puis, il y a un directeur qui me pose une question tout à fait banale, je ne me rappelle plus laquelle. Et je le regarde et j'arrive pas à lui répondre. Les larmes montent. Je me mets à pleurer devant tous mes collègues qui sont globalement des hommes de 10 à 15 ans plus que moi. Et je me rends compte que je ne suis plus capable de répondre à ce moment-là. Je me lève, je m'en vais, je me confonds en excuses. Je suis vraiment désolée. Je peux pas vous répondre là. Je vais prendre l'air. Je prends mes affaires et je m'en vais, je rentre chez moi. Et je ne sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. La veille au soir, j'allais, à mon sens, bien. Et puis, tout d'un coup, je me sens complètement incompétente au travail, au point de pas pouvoir répondre à une question tout à fait banale. Mais je ne dis rien. J'appelle pas de médecin. J'appelle pas ma famille, ni les copains. Je pense que les gens m'ont regardé partir un peu estomaqué. Qu'est-ce qu'elle a, Julia? Oui. Et puis, je passe la nuit. J'ai pas trop de souvenirs. Je pense que je dors. Et le lendemain matin, mon réveil sonne. Je dois me lever pour me préparer pour aller au travail. Et là, j'y arrive pas. Là, je peux pas me lever. Tout ce que je peux faire, c'est pleurer dans mon lit. Parce qu'il y a quelque chose qui monte. Une boule qui monte dans mon ventre, dans ma gorge. Et qui explose en larmes, en torrent de larmes. Et ma tête tourne, ça tangue, j'ai l'impression d'être dans un bateau. Un bateau paumé au milieu des îles grecques dans les années 70, dans la tempête, là. Le bateau où on peut pas s'en sortir parce qu'on est complètement, complètement dans la tempête et ça tourne tellement que je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Et je pleure et j'ai envie de dire à mon cerveau, commande ma jambe et lève-la du lit, et en fait, je ne peux pas, j'y arrive pas. Je peux pas me lever. Donc, j'ai pas les idées claires sur le déroulé à ce moment-là. Je sais que j'appelle un ami dont je suis proche, et je lui dis, je peux pas me lever. Et c'est quelqu'un qui a une énorme empathie et il me dit, Julia, je suis avec toi, tu vas y arriver. Mais il sait pas quoi me dire d'autre. Et puis la deuxième appel que je fais, c'est pour ma maman. Et je les appelle, mon père et ma mère, et je leur dis, j'ai un problème, vous pouvez venir me chercher. Ils habitent à 45 minutes de chez moi et j'ai besoin de vous, je peux pas me lever. Et ils vont venir me chercher très vite. Et c'est grâce à leurs bras, ils vont pouvoir me soulever du lit, me faire préparer quelques affaires et ils vont m'emmener chez eux. Et je vais prévenir mon travail que je peux pas y aller. Je vais les prévenir par texto, je peux pas allumer mon ordinateur, mes mails, tout ça, j'en suis incapable. Je suis dans un énorme brouillard, ça tangue. Je pleure, je comprends pas ce qui m'arrive et j'ai besoin de mes parents pour marcher, pour aller dans la voiture et pour m'asseoir et pour tout, quoi.
Ils te posent une question, tes parents, sur le moment ?
Non. Ils sont, à mon avis, affolés. Ils comprennent pas trop. Ils me demandent si s'est passé un truc. Je leur dis non, je comprends pas. J'y arrive pas, je sais pas. Et il m'arrange la chambre que j'ai quittée quelques années auparavant, il me la réarrange et il m'allonge dans ma petite chambre. Et il décide de m'emmener chez mon médecin, qui est un médecin traitant qui me suit depuis que je suis toute petite, qui est sur Paris. Donc c'est encore une petite heure de route parce qu'eux, ils sont en banlieue parisienne. Et ils m'emmènent voir mon médecin, je suis pas capable à ce moment-là d'y aller par mes propres moyens. Donc il m'accompagne dans la salle d'attente. Mon médecin accepte de me prendre en urgence et elle me prend. Donc là, on est plutôt dans l'après-midi à ce moment-là de cette journée. Et mes parents m'attendent dans la salle d'attente et moi, je vais voir mon médecin. Et donc, elle me dit « Qu'est-ce qui t'amène, Julia ?» Et je la regarde et je lui dis « Je n'arrive pas à me lever depuis ce matin. » Et elle me regarde. Elle me pose une seule question. « Julia, comment ça se passe au travail en ce moment ?» Et j'explose en sanglots. Je peux pas lui répondre. Je ne fais que pleurer. Elle me regarde encore et elle me dit « Julia, tu es en train de faire un burn-out. C'est un syndrome d'épuisement professionnel. À partir de maintenant, t'es en arrêt et c'est moi qui vais prendre soin de toi. Et tu vas t'en sortir, mais tu vas bien écouter ce que je te dis. Donc là, le travail, c'est terminé. Tu ne travailles pas. Et tu vas prendre des antidépresseurs. Parce que c'est la seule manière pour toi d'arriver à refaire surface rapidement. » J'arrive à lui dire « Non, je ne veux pas d'antidépresseurs. » Elle me dit « Si, si, tu vas les prendre parce que tu vas mettre un an à t'en remettre si tu prends rien. Et si tu les prends, tu vas mettre 2-3 mois minimum. Enfin, 2-3 mois environ. Mais tu vas trop galérer si tu les prends pas et tu vas pas t'en sortir. Tu vas rester dans cet état beaucoup trop longtemps. Donc il faut absolument que tu prennes un traitement qui t'aide parce que là, t'es pas en état. » Et là, moi... Je comprends vraiment pas ce qu'elle me dit, en fait. Burnout, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce mot? Épuisement professionnel? Mais non, tout va bien. Moi, je gère. Ça fait 5 ans que je suis dans la boîte. Ok, bon, je suis un peu fatiguée ces temps-ci, mais franchement, ça va. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais, mais en même temps, elle a pas tort, parce que j'arrive pas à me lever quand même depuis ce matin. Donc, ça me fait une énorme claque dans ma tronche. Je comprends pas. Mais comment on en arrive là, en fait? Comment j'ai fait pour en arriver à un point où je peux même plus me lever pour aller bosser, où j'ai pas pu répondre au directeur hier? J'ai un deuxième tsunami dans la tête, en fait. Et le premier, c'est que j'arrive pas à me lever depuis ce matin. Et le deuxième, c'est d'entendre ce mot, ce diagnostic, qui fait hyper mal.
T'as l'impression d'être de pas assurer, alors que t'as toujours assuré, c'est ça?
Oui, je me sens en échec. Je me sens en échec de moi-même. Je me dis, attends, mais là, je suis pas capable de faire la chose la plus simple du monde. Me lever, prendre une douche, prendre un petit déj et aller au travail. Et en plus, je suis même pas capable de me rendre compte que je suis pas capable. C'est ça qui est dur. C'est que je suis dans le déni et que il faut que quelqu'un me secoue et me dise ce qui se passe pour que je réalise l'état dans lequel je suis. Parce que j'ai pas cette lucidité. Je comprends pas. Et je crois encore à ce moment-là que je vais pouvoir allumer mon ordi en sortant du cabinet.
Ils te l'ont pas confisqué, tes parents?
Si, je pense. Je sais plus trop, mais à mon avis. C'est vachement dur à encaisser. Parce que je me sentais super loin de tout ça. Et je pensais pas qu'un jour, quelque chose comme ça pourrait m'arriver. Et puis surtout pas à cet âge-là. Je sais pas, je viens de commencer ma vie pro. Comment ça, je tombe par terre, là, on peut que me ramasser, on peut rien faire de moi, là. Ça fait que 5 ans que je bosse. Et je suis pas capable de résister au stress, à la pression, à la charge de travail qu'on me met. Je suis une loque, je suis par terre et je peux plus rien faire. Ça fait super mal et c'est hyper dur à encaisser. Je sais pas comment dire, mais c'est...
Et donc, tes parents te ramènent chez eux?
Ouais.
Est-ce que tu leur expliques ce qu'elle te dit ou...
Oui, je leur explique tout de suite. J'ai pas de problème à leur en parler. Ils me ramènent, mais j'arrive pas à parler parce que je suis encore dans un état où j'ai beaucoup de sanglots, beaucoup de choses, à mon avis, qui remontent. Et je pleure et je suis pas vraiment capable de verbaliser ce que je ressens. Je dis juste, je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne. Et j'y arrive pas, quoi. Et c'est tout. Donc, on rentre et ils vont m'aménager ma chambre pour que je puisse y rester et me reposer un peu. Décompresser. Mon médecin me dit pendant la consultation, il faut que tu fasses une photocopie de ton arrêt de travail, tu l'envoies à la sécurité sociale. C'est tout ce que je te demande de faire. Et pour le reste, repose-toi. Dors quand tu peux, fais des choses qui te font du bien, et on va se voir toutes les semaines. À partir de ce moment-là, on se voit une fois par semaine pendant au moins une heure. Donc elle me donne rendez-vous pour la semaine d'après. Donc j'ai deux choses à te retenir, envoi d'arrêt de travail et le rendez-vous de la semaine prochaine, et en attendant, repose-toi. Quand je rentre à la maison, j'ai oublié ce qu'elle m'a dit comme instruction sur l'arrêt de travail. Je fais pas ce qu'elle me demande, j'y arrive pas. Donc je fais pas la photocopie. Et j'arrive même pas à mettre l'adresse. Quand on remplit l'arrêt de travail, on a une adresse à remplir où est-ce que le salarié peut être visité et il faut l'envoyer à la sécu. Et moi, j'ai un problème, c'est que je ne me rappelle plus l'adresse ni de mes parents ni de la mienne. Donc, je demande de l'aide à mes parents pour remplir l'arrêt et je ne sais pas où envoyer, quelle adresse, la CPAM. Oh, ça me paraît insurmontable de retrouver l'adresse. Donc, je leur laisse tout compléter pour moi et c'est ma mère qui va poster l'arrêt. Et je peux juste envoyer un texto à ma hiérarchie, je suis en arrêt. Et je leur dis ce que j'ai, parce que mon médecin me l'a conseillé.
Ah oui, donc tu leur dis dès le début...
Oui, je suis actuellement en arrêt pour syndrome d'épuisement professionnel. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai reprendre le travail. Voilà mon arrêt de travail. C'est ce qu'elle me propose de faire. Ça, j'ai réussi à le faire. Je le suis comme instruction. Et puis pour le reste, je m'écroule dans ma chambre, dans le noir. Je supporte pas la lumière et je veux rien faire. Je peux pas lire... Je suis dans un état, je sais pas comment qualifier, j'ai envie de dire lamentable, mais c'est un peu sévère pour moi, mais là, je veux de la pénombre et le moins de sollicitations possible. Quand on rentre dans la chambre pour me demander ce que je veux manger, c'est déjà trop d'effort. Je sais pas ce que je veux manger, propose-moi ce que tu veux, parce que bien évidemment, je peux pas me lever, faire à manger et tout, ça c'est impossible. Le plus que ce que je peux faire à ce moment-là, c'est... On me porte du lit, on m'amène dans la salle à manger et je peux porter la nourriture avec la fourchette à la bouche, mais voilà, c'est tout. Hein. Je peux pas couper une tomate, je sais même pas les recettes, faire une recette, faire à manger, tout ça, ça capte pas dans mon cerveau. Je peux me lever, je peux manger, voilà, c'est tout. Et je me recouche.
Tes parents, on comprend qu'ils sont très très aidants, mais ils essaient de parler avec toi, de te faire parler. Est-ce qu'ils ont peur que tu fasses une bêtise? Enfin, comment tu les perçois à ce moment-là?
Ils sont bienveillants, à l'écoute. Ils m'aident. Ma mère, elle est retraitée à ce moment-là. Mon père travaille. Mais ma mère, elle est avec moi au quotidien, H24, et elle est là. Et elle prend soin de moi. Comme une maman... qui aime sa fille et qui fait tout pour elle. Elle est hyper présente. Et sans elle, je sais pas comment j'aurais fait. D'ailleurs, ça aurait été insurmontable parce que je ne pouvais pas m'assumer. Mais donc, mes parents sont présents. Mais ils sont aussi inquiets. Et ça, je le ressens. Parce que ils sont inquiets de voir leur fille dans un tel état, alors que j'ai jamais connu ça de ma vie. Ils m'ont jamais vue dans un état de faiblesse émotionnel et psychologique comme ça. Je suis quelqu'un qui est plutôt joyeuse, bien dans sa peau. J'ai jamais causé de soucis, on va dire, entre guillemets, à mes parents. Ils ont jamais eu à s'inquiéter. Donc, tout d'un coup, mais qu'est-ce qui lui arrive à Julia? Mais on la reconnaît pas. Et donc, oui, les 2-3 premières semaines se passent avec à la fois beaucoup de bienveillance et à la fois beaucoup d'interrogations. Et au bout d'un moment, au bout de 2-3 semaines, mes parents commencent à me dire, et mon frère aussi, mais ma famille proche me disent, il va falloir peut-être que tu sortes de ta chambre, va prendre un peu, va te balader, va faire une balade en forêt, viens, on t'accompagne, on va prendre l'air, oh, il faut quand même que tu te bouges, regarde, t'es en arrêt, t'as toute ta journée pour toi, va au resto, fais des choses qui te font plaisir, parce que si tu restes dans ta chambre, tu vas pas t'en sortir. Donc, je me fais un peu houspiller comme ça, ce que je comprends tout à fait sur le coup, mais j'en suis complètement incapable. Je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas aller au restaurant, mais quelle idée. Donc, mon frère me fait sortir au restaurant, dans mon restaurant préféré, à Paris, sauf que j'arrive pas à manger. Et j'ai les yeux dans le vide, et c'est un effort surhumain. Je lui dis oui, je sais même pas pourquoi. Il me traîne au resto, je prends même pas de plaisir à manger le plat que j'adore d'habitude. Il me regarde, et il me dit « Julia, tu me tiens au courant quand la vraie Julia, elle revient là ?» Parce que franchement, c'est pas toi. Tu me tiens au courant quand tu reviens? je lui dis, ouais, je te tiens au courant, là, là je crois que c'est pas moi, effectivement.
Donc, ça t'agace pas, ça te fait rire plutôt cette...
Ouais, là, à ce moment-là, ça me fait rire, mais je suis triste aussi. Parce que moi aussi, j'aimerais que la Julia, elle revienne, mais je sais pas pourquoi je suis dans cet état-là. Je sais pas. Je vois quand même mon médecin toutes les semaines, mais je me traîne à son cabinet, je la regarde, j'ai les yeux dans le vide. On parle un petit peu, mais j'arrive pas à verbaliser sur les 2-3 premières semaines. J'arrive pas à réaliser, à prendre du recul. Je pense que, ouais, le temps que le traitement fasse effet aussi, les antidépresseurs, je sais pas combien de temps ça met à prendre effet, mais à ce moment-là, je suis encore un peu dans le brouillard, quoi.
T'as des contacts un peu avec ton travail ?
Pas du tout. J'ai tout rompu. Je ne peux pas. En fait, rien qu'à l'idée de dire à ma hiérarchie, je suis prolongée, parce que j'avais des arrêts qui étaient prolongés, ça me fait monter l'angoisse et j'ai les larmes aux yeux rien que de prendre mon téléphone et d'envoyer un texto à mon boulot. Et tous mes collègues que j'adore, avec qui je m'entends super bien, je suis incapable de maintenir un lien. Ça me fait trop mal.
Eux, ils essayent un peu ?
Un petit peu, ils prennent de mes nouvelles, mais j'arrive pas à donner des miennes. Très très peu.
Et est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu te raccroches ? Parce que là, la perspective de rester dans cet état-là, elle, c'est insoutenable. Mmh. Mais est-ce que tu as des lueurs d'espoir ? Est-ce que c'est ce que te dit ta médecin ? C'est quoi ce qui te fait tenir ?
Moi, je me raccroche entièrement à ce moment-là à ce que me dit mon médecin. C'est elle qui me guide, c'est elle qui m'a arrêtée, c'est elle qui m'a dit qu'elle allait me sortir de là. Donc, j'écoute personne d'autre que elle. Et elle me dit que je vais m'en sortir, mais elle est pas dans la possibilité de me dire quand. Elle peut pas. Elle me dit, tu vas y arriver, mais je peux pas te dire quand. Et en attendant, on se voit toutes les semaines. Au bout de 3-4 semaines, je commence à aller mieux au niveau physique, c'est-à-dire que j'arrive à prendre une douche toute seule, j'arrive à me lever.
Jusque-là, tu te...
Non, non, non. Les 3-4 premières semaines, c'est pas possible. C'est mes parents qui m'aident à faire toutes les choses les plus simples de la vie. Même la douche. Mais au bout de 3-4 semaines, physiquement en tout cas, je me sens capable. Donc je commence à me lever, à aller sur la terrasse pour prendre le soleil, parce qu'à ce moment-là, on est en octobre et il y a encore du soleil, à regarder la télé, à discuter dans le salon avec mes parents. Je passe encore beaucoup de temps dans mon lit, mais ça commence à aller mieux au niveau physique. Et c'est précisément à ce moment-là que je commence à expérimenter les crises de panique. C'est précisément à ce moment-là qu'un autre symptôme apparaît, et qui apparaît au moment où je m'endors. Donc je vais mieux la journée, je suis plus autonome la journée, mais au moment de l'endormissement, je vais sombrer dans le sommeil, et là, j'ai le cœur qui tambourine et la respiration qui se saccade. Ça monte, ça monte, ça monte, je comprends pas ce que j'ai, et je suis incapable de m'endormir dans cet état-là. Et ça commence comme ça, un peu tous les soirs, et j'en parle à mon médecin que je vois toutes les semaines, et elle me dit « Julia, c'est parfait !» T'es en train de faire des crises de panique. C'est super parce que c'est exactement le bon déroulement du burn-out. C'est-à-dire que, bon, moi, je sais pas si tout le monde en a à ce moment-là, enfin, si toutes les personnes qui font un burn-out en font, mais en tout cas, ça paraît rassurant pour mon médecin parce que c'est le déroulement classique de ma maladie qui fait que je vais vers du mieux parce que ça voilà, elle estime que c'est bien. Donc, elle me donne des anxiolytiques en plus de mon traitement d'antidépresseur pour pouvoir les prendre. Dès que je sens que la crise de panique arrive, parce qu'elle me dit, voilà, c'est une crise de panique, donc t'inquiète pas, ça va aller, ça va disparaître aussi, mais tu dois passer par là. Donc je me dis, ok, donc...
Faut vraiment que tu lui fasses confiance.
Hein. Ouais, je lui fais énormément confiance, donc j'ai mon Xanax. Bonjour la pharmacie, donnez-moi du Xanax en plus de l'antidépresseur, mais sinon je vais bien. Et effectivement, ça va beaucoup mieux, parce que dès lors que les crises de panique m'envahissent la nuit, je prends du Xanax... Et ça me calme et ça me permet de sombrer. Alors par contre, le lendemain matin, c'est violent. Hein. Je me réveille avec la bouche pâteuse et je suis complètement dans le coltard. Ça me met une grosse claque, mais ça a le mérite de calmer ces angoisses qui montent et qui... Sans les médicaments, j'arrive pas à les contrôler. C'est incontrôlable. Je sais pas comment décrire ça, mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et on a l'impression qu'on va mourir tellement ça nous empêche de respirer. Moi, ça m'empêche de respirer à ce moment-là. Et ça dure... J'en ai entre 1 et 10 par nuit. Donc ça,
c'est énorme.
Voilà, et j'en ai aussi la journée, mais moins, 2-3 la journée. Et ça commence au moment où je vais me coucher, au moment où je sombre dans l'endormissement, hop, ça monte, et la crise de panique arrive. Et donc, ouais, au bout de 3-4 semaines, j'ai les crises de panique qui commencent et qui vont s'intensifier au fur et à mesure des jours qui passent. Et là, c'est dur. Et il y a 2 ou 3 nuits où je vais demander à ma mère de dormir avec moi dans le lit et je vais lui prendre la main et je vais lui broyer la main toute la nuit parce que je suis effrayée de ce que je vis, parce qu'il y a les crises de panique qui m'envahissent, que je peux pas fermer l'œil et que je... Et même à un moment, le Xanax n'est pas suffisant. Et j'ai besoin d'elle, je suis terrifiée. Et elle me prend la main, toute la nuit, elle est là avec moi. Et j'appelle le SAMU, je leur dis bonjour, je suis en burn-out, j'arrive pas à contrôler mes crises de panique, qu'est-ce que je peux faire? Là, cette nuit-là, je suis, ouais, c'est au bout de 4 semaines à peu près, et je suis en détresse parce que même les médicaments semblent ne pas m'aider à contrôler la situation. Et le médecin du SAMU me dit, écoutez madame, je pense qu'il faut que vous ayez un suivi psychiatrique et que vous ayez aussi, vous pouvez doubler la dose. Donc il m'explique la posologie, etc., que je connaissais pas, il me dit, vous pouvez en prendre plus. Donc c'est ce que je fais, ça me calme, et j'écris à mon médecin, je lui fais un petit mail, à ce moment-là, elle m'a donné aussi son numéro de portable, son mail, je peux lui écrire à tout moment, entre les rendez-vous hebdomadaires, et je lui dis, bonjour, voilà ce qui m'est arrivé, et elle m'a répondu en me disant, c'est le signe que tu as énormément de choses à évacuer au niveau moral, ça va dans le bon sens, ne t'inquiète pas, effectivement tu peux doubler la dose au niveau du Xanax, etc. Et ce que je te propose, c'est qu'on se voit 2 fois par semaine. Et tu vas, et donc je vais la voir 2 fois plus souvent. Et elle commence à me dire, écris, entre nos rendez-vous, écris et pense à tout ce qui va pas dans ta vie au travail. Tout ce qui te pose problème, tout ce qui te paraît anormal, tu les poses sur un papier et tu viens me voir et on en discute. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va dire quand je rentre dans la 4e, 5e semaine de maladie, je vais réussir à prendre un peu de recul, réfléchir à ce qui va pas dans la vie pro et le verbaliser avec elle lors des rendez-vous. C'est la seule personne à qui j'arrive à parler du travail. Autour de moi, j'y arrive pas du tout. Mais avec elle, j'arrive à déposer ma parole et à l'expliquer ce que je vis au travail. Et c'est elle qui va pouvoir m'expliquer aussi que ce que je vis, la manière dont j'ai organisé mon travail, mon rythme de travail, ou ce qui se passe tout simplement, ne peut pas marcher. Et que c'est à cause de ça que je suis dans cet état. C'est elle qui me fait réaliser à ce moment-là.
Elle a une formation particulière, cette généraliste, parce qu'on a tous envie d'aller lui faire un câlin, là.
Je pense qu'elle a une énorme aptitude à régler, à accompagner les gens en épuisement professionnel. Je sais pas d'où elle le tient, je lui ai jamais demandé, mais elle est effectivement exceptionnelle.
Remarquable.
Parce qu'elle prend le rôle de psy, en fait, à ce moment-là, parce qu'elle n'est pas tenue de prendre. Hein. Et elle le fait très bien, en plus, parce que... Elle arrive à me faire verbaliser des choses que j'ai gardées au fond de moi depuis 5 ans, à qui je parle même pas à ma mère, j'arrive même pas à lui dire, et elle y arrive, donc c'est effectivement un soutien énorme pour moi.
Et ça te fait du bien d'écrire tout ça?
Ouais, ça me fait beaucoup de bien.
Ça te servira. Est-ce que tu t'imagines retourner au travail?
Non, j'en suis incapable. Déjà, j'arrive à manger et à me laver, je suis déjà contente. Donc, en fait, de là, avoir une activité cérébrale, intellectuelle, ou ne serait-ce qu'une heure de concentration, à la base sur un livre ou sur un ordi, ça me paraît insurmontable, impossible. J'en suis plus capable. Alors, j'en suis pas capable, mais parce que je me sens avec un niveau de confiance réduit à 0, en miettes, au 36e dessous. Je pense à ce moment-là que je pourrais plus travailler du tout, en fait. Que aucun autre environnement de travail, ni celui que j'ai actuellement, ni un autre, ne pourra me convenir parce que je ne suis pas capable de travailler, je suis une merde. Et la vie, elle continue pendant que moi je suis dans ma chambre à essayer de me débattre pour faire des choses simples de la vie. La vie, elle continue et moi je suis pas capable. Et si je suis pas capable, c'est parce que je suis nulle en fait. Donc,
Oui, donc tu te dis pas que t'as une maladie, tu te dis que t'as une faiblesse
oui.
et que t'es moins résistante que les autres. Quoi.
Je pense que je suis très faible, que je suis une incapable, que... Ouais, que je suis une femme fragile et que... Il va falloir que je prenne un poste alimentaire plus tard dans la vie, mais que en aucun cas je pourrais retrouver un poste à responsabilité. Nulle part. J'en suis absolument incapable. Et d'ailleurs... À ce moment-là, une recruteuse m'écrit sur LinkedIn pour me dire que j'ai un profil intéressant et qu'elle aimerait bien m'intégrer dans un processus de recrutement pour un poste de responsable RH pour une autre société. Donc déjà, je mets 10 jours à voir le message, évidemment, et je mets 2 semaines à en parler à mon médecin. Je la vois 2 fois par semaine à ce moment-là. Et je lui dis, au bout d'un moment, je lui dis « Ah oui, au fait, il y a une recruteuse qui m'a écrit, mais évidemment, je lui réponds pas. » Et elle me regarde et elle me dit « Bien sûr que si, tu vas lui répondre. » « Bah non. » « Mais si, Julia, t'en es capable. » « Ah non, non, j'en suis pas du tout capable. » « Si, si, tu vas lui répondre, ça te coûte rien, tu lui réponds et tu lui dis « Ok, pour un petit rendez-vous téléphonique. » Et puis tu me raconteras comment ça se passe la prochaine fois qu'on se voit. Moi, je la regarde, mon médecin, je lui dis « Oui, bah je vais le faire parce que tu me le demandes, mais je n'en suis pas capable. » Mais d'accord, ok. Donc, je rentre, je vais répondre à cette recruteuse et je lui donne rendez-vous pour un rendez-vous téléphonique quelques jours après. Je fais le rendez-vous, mais...
Attends, tu te prépares pour ce rendez-vous
non.
ou tu y vas complètement...
Bien sûr que non. Je vais faire 2 fois plus de crises de panique la nuit parce que je sais que j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h du matin et que j'en suis pas capable. Donc, je vais être blindée aux Xanax comme jamais quand je vais décrocher mon téléphone. Mais pendant l'échange téléphonique que j'aurai avec la recruteuse, je vais réussir à réunir mes idées, à avoir une diction claire et à lui expliquer ce que je fais au travail. Et même, j'arrive à lui dire « Oui, oui, ça m'intéresserait de rentrer dans le processus de recrutement. » Et quand je raccroche, je me dis « Waouh, mon médecin, elle va être fière de moi parce que j'ai réussi à faire l'entretien. » Bon, évidemment, je vais pas y aller, mais au moins... J'ai fait l'entretien et ça, elle va être sacrément fière. C'est une grosse victoire à ce moment-là.
Tu l'as vécu comme un exercice, en fait.
Oui, c'est un exercice. Je me dis...
La pauvre cobaye, en fait. L'autre qui t'appelle, c'est...
Je me dis, elle va le sentir au téléphone que j'ai la bouche pâteuse. Elle, c'est que du téléphone. Bon, on est en 2014. On n'est pas encore sur les Visio Teams pour les échanges téléphoniques. Tout ça, il n'y a pas encore. Mais non, elle n'a pas l'air de capter. Je me dis, bon, bah, très bien, ça passe. Et voilà, donc je continue les crises de panique, je continue à m'isoler chez mes parents, je ne fais rien, pas grand-chose. Et puis j'ai ce processus de recrutement qui me tombe dessus, et mon médecin qui me dit « Mais tu en es tout à fait capable au niveau intellectuel, Julia, c'est juste toi qui crois que tu ne l'es pas. Mais je te promets que tu en es capable, et ce serait même super que tu puisses y aller, parce que ça te montrerait que... Tous les environnements de travail ne sont pas toxiques, c'est juste celui dans lequel tu es actuellement, mais que tu es capable de travailler ailleurs. Donc elle me le dit clairement, voilà, ça t'aiderait à guérir en fait, de faire un petit process de recrutement ailleurs.
Et donc tu vas à ce rendez-vous ?
Donc j'y crois pas du tout à ce qu'elle dit, parce que moi je continue de penser que je suis pas capable. Mais je vais me laisser embarquer dans les rendez-vous qu'on me propose. Il se trouve qu'on me propose un premier rendez-vous en physique dans les locaux. Puis un deuxième avec la société qui recrute, avec les dirigeants. Ça va se dérouler sur ma 5e, 6e, 7e semaine d'arrêt de travail. Et je suis toujours sous antidépresseur. Je fais toujours des crises de panique. Je prends toujours du Xanax la nuit. D'aller à ces rendez-vous, ça me demande un effort. Ma tête, elle tourne encore, hein. J'ai encore la tête qui tourne. Un peu moins quand même, mais je l'ai encore. Ça me suivra... tout le long de ma maladie. La tête qui tourne, c'est le symptôme. Mais j'y vais, parce que mon médecin m'a dit que ça m'aiderait, alors j'y vais. Et puis, je me dis, ils vont les voir mes yeux, ils vont voir à mes yeux que je suis shootée, ils vont voir que ma bouche, j'ai besoin de boire tout le temps parce que j'ai la bouche pâteuse et que j'ai trop de médoc dans le sang, quoi. Et puis, je crois qu'ils voient rien, parce qu'ils me proposent toujours et encore d'aller plus loin dans le process. Et puis, je finis par les intéresser et être dans la shortlist des 2 finalistes. et mon médecin me félicite et je suis hyper contente parce qu'elle est fière de moi et c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'en fait, je sais toujours pas si je veux y aller dans cette boîte. Parce que moi, je suis pas capable de travailler à ce moment-là. Il croit, à ce moment-là, la recruteuse, les directeurs de cette entreprise croient que je suis en activité et que je pose des demi-journées de congé pour aller aux entretiens alors que je suis en jogging, les cheveux sales, recroqueviller les genoux comme ça contre moi toute la journée. C'est dingue.
Fake it until you make it.
Ouais. J'arrive même à me maquiller, je sais pas comment, et ouais. Mais quelque part, ça me fait du bien au fur et à mesure de voir que je suis quand même capable de tenir une conversation pendant une heure ou deux avec quelqu'un en face. Parce que l'exercice, c'est ça, c'est tenir une conversation, répondre à des questions, se présenter. Et j'y arrive et je suis fière de moi aussi à ce moment-là. Je me dis, waouh, je fais un sacré pas là.
T'arrives quand même à apprécier ça et à te...
Ouais.
Donc tu remontes un peu dans ton estime.
Oui. Un petit peu. Un peu. Pas beaucoup.
Et tu finis par avoir la réponse alors de cette entreprise ?
Je l'ai, mais plus tard. Avant ça... Le processus de recrutement va durer 3 ou 4 mois. Parce qu'il y a un moment où il temporise un peu, parce que je suis la seule, finalement on n'est plus que deux, et puis finalement je suis plus que toute seule. Mais je suis plus que toute seule parce que je suis la seule candidate valide à ce moment-là pour eux qui répond à tous leurs critères, mais ils voudraient bien qu'il y ait quelqu'un à côté, on va dire, qui arrive au même niveau de compétence ou responsabilité, et ils aimeraient bien pouvoir comparer, et à ce moment-là, ils peuvent pas. Donc, ils vont mettre en stand-by le recrutement, et on va m'expliquer que j'ai tout très bien fait, il n'y a pas de souci, mon profil est super, mais qu'ils ont besoin d'avoir une autre personne à côté, et donc, ça va se temporiser pendant 2-3 mois, où je vais plus trop avoir de nouvelles. Moi, je suis contente, parce qu'à ce moment-là, je suis allée au bout, c'est tout ce qu'il me fallait. Et puis je continue ma petite vie chez mes parents, en arrêt de travail avec tous ces symptômes. Et puis je demande à mon médecin, quand est-ce que je vais guérir? Quand est-ce que ça va s'arrêter les crises de panique? Quand est-ce que ma tête va arrêter de tourner? Et elle me dit, ça va s'arrêter du jour au lendemain, Julia. Il y a un matin, tu vas te lever, tu vas être guérie. Et aussi fort que t'es tombée du jour au lendemain, tu vas guérir. Tu vas le savoir, tu le sauras. Tu vas te lever, tu sauras que t'es guéri. Bon, ok, comment c'est possible, d'accord. J'y crois pas trop, mais tous les matins, je me lève et je me dis, eh mince, ça tangue encore. C'est pas pour aujourd'hui. Eh mince, j'ai fait 5 crises de panique cette nuit. Bon, bah, c'est pas pour aujourd'hui. Et au bout de 8 semaines, ça faisait donc 2 mois, depuis ce jour où j'ai pas pu me lever, je vais voir mon médecin. Et pour la première fois depuis tous mes rendez-vous depuis 2 mois, je me maquille pour la voir. Et elle me regarde, elle me dit « T'as fait des crises de panique cette nuit ?» Je lui dis « Ah, mais non, j'en ai pas fait !»« Ben, Julia, t'es guérie ?» Je dis « Non, c'est pas possible !» Elle dit « Mais si, tu peux reprendre demain ? Ça te dit de reprendre demain ?» Et je la regarde, je suis trop heureuse, je lui dis « Mais oui !»
J'ai des frissons.
Mais bien sûr que je veux reprendre demain. C'est vrai, et oui, ça tangue plus, tiens. Et je m'en étais même pas rendu compte. Oh, mais c'est vrai, je... Ça y est, c'est parti. Et je vais mieux. Et je dis à ma médecin, mais t'es sûre que je peux reprendre? T'es sûre? Parce que comment je sais que je vais pas retomber là, la semaine prochaine? Ça me fait vachement peur. Et elle m'explique, elle me dit, Julia, ton cerveau, il a plongé... Ton corps et ton cerveau ont plongé une fois. Ça a été tellement traumatique pour toi que ton cerveau, il ne te laissera plus jamais retrouver cet état-là. Tu ne te remettras plus jamais dans un état d'épuisement tel que tu l'as connu. C'est fini. Tu l'as fait une fois. Maintenant, tu es invincible. Ça ne t'arrivera plus jamais.
Tu reconnaîtras les signes.
Ouais. Tu reconnaîtras les signes et tu ne te laisseras plus jamais aller dans cet état-là. Fais-moi confiance. T'inquiète. Tu peux y aller. Et tu vas mettre en place les bonnes barrières pour séparer ta vie pro et ta vie perso et vivre ta vie de jeune femme. Et ça, c'est un truc qui résonne en moi. Tu vas vivre ta vie de jeune femme et je réalise que je ne l'ai pas vécu ces dernières années parce que je les ai passées au travail, parce que je suis allée travailler le week-end, parce que je n'ai pas réussi à trouver l'amour ou ne serait-ce qu'une relation amoureuse saine et stable qui dure quelques mois. Même ça, je l'ai pas, en fait. Et je me dis, vive ma vie de jeune femme. Ah, mais ouais, mais c'est ça que je vais faire maintenant. J'ai 30 ans, j'ai envie d'être amoureuse et j'ai envie d'avoir un bon équilibre pro perso, des choses que je me suis pas autorisée. Et je vais faire les choses différemment. Donc, je retourne dès le lendemain dans ma société dans laquelle j'ai plongé. Ils sont hyper heureux de me voir. Et moi, je suis sous l'effet des antidépresseurs à fond. Hein. Là, je les prends. Elle m'a pas du tout diminué le traitement. Donc, je suis rayonnante. Tout le monde me le dit. Waouh, ce sourire. Ah, mais tu respires le bonheur. Mais Julia, mais oh, ça fait plaisir de te voir comme ça. Et je rentre et j'ai l'impression d'être invincible. Je suis trop heureuse. Et je reprends tous les sujets comme ça, d'un coup. Nickel. Impressionnant. Je reprends ma vie du jour au lendemain.
Et tu mets des barrières cette fois ?
Oui. Alors là, par contre, à 18h, désolé, mais j'ai ma vie de jeune femme à vivre, quoi. Là, ça y est, j'ai compris la leçon. Et il est hors de question que je me laisse, retourner dans tous ces travers. Et d'ailleurs, c'est génial parce que c'est vrai que les antidépresseurs me donnent une prise de recul et une force à ce moment-là, comme une béquille qui m'aide à dire non. Parce que mon problème, c'est que je savais pas dire non. Oui, oui, je vais me déplacer tous les mois dans tous les pays, bien sûr. Oui, je vais faire la paye en même temps. Oui, oui, je vais faire ci, ça, ça. Oui, oui, il y a tout ça à faire. Et là, le fait d'avoir cette prise de recul, ça me permet de remettre toutes les choses dans le bon ordre et de mettre beaucoup de barrières, chose que j'avais pas su faire. Donc oui, je pars à 18h, j'ai ma vie de jeune femme à vivre. Non, je peux pas faire 4 déplacements dans 4 pays différents ce mois-ci. Tu veux vraiment que je le fasse ? Bah en fait non, je vais pas le faire. Donc voilà, je tiens tête. Et c'est nouveau. C'est vraiment nouveau.
Et l'autre recrutement dans tout ça ?
Ah voilà, donc je reprends donc cette activité et au bout de 2 mois, ça fait 2 mois que j'ai repris, on m'appelle et on me dit bravo, vous avez été choisi, vous avez été jusqu'au bout du process et on vous a retenu et on vous fait une proposition pour nous rejoindre. Donc j'ai décroché le poste pour lequel j'ai postulé sans le vouloir, dans un état lamentable et on me dit que je suis prise. Et là vraiment je me dis que je suis une imposteuse. Je peux pas faire ça, je peux pas accepter. Je me dis mais non, enfin c'est pas juste, enfin je sais pas, je me dis que je le mérite pas, que non. Et mon médecin, encore une fois, que je vois toutes les semaines aussi, hein, même en ayant repris, elle me dit bien sûr que si, tu l'as mérité, je suis fière de toi et si tu le veux, accepte. Et je vais accepter de changer de société et d'aller dans cette nouvelle parce que pour moi c'est l'occasion de faire un nouveau départ professionnel et de réécrire une page qui soit saine dès le début. J'ai beaucoup d'attaches avec cette société, la première dans laquelle j'ai travaillé, mais je sens bien que c'est plus possible parce que je mets des barrières dans le schéma. En fait, eux, ils ont pas changé leur manière de faire. Donc, j'ai pas envie de lutter toute ma vie professionnelle ou encore des années pour me protéger. Il faut que je sorte de cet environnement qui, à mon sens, est toxique et qui m'a fait plonger. Et en fait, ils n'ont pas amené d'autres personnes dans mon équipe. Ils n'ont pas l'intention de staffer plus. Ils me demandent encore de me déplacer. Donc, bon, mis à part le fait que j'ai compris la leçon, je suis quand même heureuse d'aller voir autre chose qui me permettra vraiment de guérir et de m'épanouir au niveau pro et perso et de plus avoir cette peur de replonger finalement. Parce que c'est vrai que de revenir dans cette société, j'avais un peu peur quand même si j'avais confiance en moi.
Et comment ça s'est passé alors dans l'autre, dans la société ?
Donc,
enfin, ta vie en général dans cette phase
donc,
après. Quoi.
Donc voilà, j'ai 30 ans et quelques, je rentre dans cette nouvelle société, je leur dis pas ce que j'ai vécu. Mon directeur général, à qui je reporte et qui m'a vu en entretien, il ne le sait pas et toujours pas à cette heure-là d'ailleurs.
Mais il va le savoir, là.
Je sais pas s'il écoutera. Laurent, si tu m'écoutes, merci pour tout. Parce que dans cette société, je vais guérir. Je vais trouver, un manager fantastique qui va me redonner confiance, qui me félicite, qui me demande pas l'impossible, qui me demande pas de me déplacer parce que j'ai fait, bien évidemment, le choix d'aller dans une société où le périmètre est français. Donc, il n'y a plus de déplacement. On est tous au même endroit, tous les salariés. Et quand il va me valider ma période d'essai, au bout de 4 mois, avec les félicitations, je vais pleurer dans son bureau. Les larmes me montent et j'arrive pas à les contrôler. Ça fait 4 mois que je me maîtrise, que je cache tout. Et là, il me félicite et c'est beaucoup trop d'émotions pour moi parce que je me dis, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, j'ai guéri et j'ai réussi à retrouver, et j'ai réussi à être compétente de nouveau. Ça y est, je suis plus une merde, en fait. Voilà. Par ces mots-là, quand il me dit félicitations, Julia, je me dis, ok, en fait, je peux reprendre confiance en moi et ça va bien se passer. C'est fou de dire ça, mais c'est tellement ça. Et je crois que à ce jour, il a toujours pas compris pourquoi je me suis mise à pleurer dans son bureau. Il a dû dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle pleure? Et voilà, si tu écoutes Laurent, c'est pour ça que j'ai pleuré ce jour-là. Et en tout cas, grâce à lui et grâce à d'autres personnes autour dans cette société, j'ai réussi à vraiment retrouver une vie équilibrée. J'ai rencontré un homme qui va devenir mon mari. Je le rencontre très peu de temps après être entrée dans cette société. Aujourd'hui, c'est mon mari. On a 2 enfants ensemble. Et je suis hyper contente de ça. Je suis très, 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 très heureuse dans la vie aujourd'hui. Mais je me dis que ça valait le coup de plonger. Ça valait le coup de vivre cet enfer parce que peut-être que je serais restée border toute ma vie pro à être un peu comme ça, stressée, trop bosser, pas m'écouter. Et finalement, j'ai plongé une bonne fois. Ça a été très dur. Ça a été une maladie très difficile, mais pour n'en ressortir que de la force et des leçons de vie.